Bernard Groisard, ancien marin pêcheur et armateur à l'Île-Dieu, a publié il y a quelques mois son nouveau roman « Adieu au large » paru aux éditions Amalthée. Bonjour Bernard.
Bonjour.
« Adieu au large », c'est le troisième livre de la famille Tarot avec un H, pêcheur de thon, sur l'Île-Dieu. Que racontaient les deux précédents livres ?
Alors, le premier, je m'étais battu sur la vie de nos aînés qui partaient en Afrique, qui partaient partout où on parlait français, dans les dom-toms. Malgré qu'il y avait beaucoup de bateaux devant le port, il n'y avait pas assez de place pour les cadres, patrons et mécaniciens. Or, pendant les Trente Glorieuses, tous les dom-toms étaient demandeurs. Donc c'était une façon de partir quelquefois pour payer ses dettes, ou alors pour partir pour mettre de l'argent de côté et s'acheter un bateau au retour. C'était la grande époque.
Et le suivant ?
Alors le suivant, c'était plus contemporain. Donc la famille Tarot va se déplacer à Abidjan, à Cayenne, et dans le second... C'est un peu la vie et la lutte franco-espagnole. Un des frères Tarot, lui, ne partira pas en Afrique et restera, il aura son bateau, mais il sera confronté à la lutte franco-espagnole, notamment sur la pêche au thon.
Adieu au large, c'est la pêche jusqu'à nos jours.
C'est ça, c'est le troisième volet de la saga. Et là, on démontre non seulement la pêche, mais le combat qu'il a fallu mener à Bruxelles, à Strasbourg, à Luxembourg et dans toutes les capitales européennes pour essayer de garder le filet dérivant. Ça, c'est le second volet. Et dans le troisième, ça sera la Seine et garder les engins de pêche que nous voulions.
Cette bataille, vous en parlez tout de même à Bruxelles, dans ce livre.
Oui, oui, surtout le troisième. Le troisième, ça a été la fin du filet dérivant et l'arrivée de la Seine et l'obligation que nous avait imposée l'Europe de se reconvertir. Mais malgré cette obligation, là, c'était pas le poisson, c'était pas les écolos, c'était le dossier thon rouge qui a tout enflammé.
Reconversion assez difficile, je l'ai compris dans ce livre.
Ben, si nous avions fait le thon rouge à l'époque où Rogéneau et le patron du Jos, Friou, avaient armé à la Seine, il y a 25-30 ans, il n'y aurait pas eu de problème, nous aurions été admis. Mais rentrer dans ce domaine, on s'en est rendu compte après coup, en pleine bagarre sur le thon rouge en Méditerranée, où eux, ils construisaient des seigneurs à tour de bras, n'étions pas les bienvenus.
Pourquoi Tarot avec un H ?
Bon, j'ai voulu me servir du nom principal de l'Île-Dieu, mais pas mouiller les tarots, donc j'ai rajouté un H.
Simplement.
Tout simplement.
Ce livre mêle histoire de famille, histoire d'amour et pêche. Quelle partie est la plus ancrée dans la réalité ?
Alors, mais toutes les réunions sur la pêche, sans doute à la date précise que j'ai indiquée dans le livre. J'ai une énorme bibliothèque chez moi, j'ai beaucoup d'archives. Et seule l'histoire d'amour, c'est le roman, c'est brodé, mais c'est le liant qui va permettre de suivre la même famille durant les trois livres. Ce n'est qu'un liant. Et puis ça agrémente aussi le sujet.
Vous parlez dans ce livre d'achat de bateaux pour augmenter le quota.
Oui, au début...
Des bateaux qui allaient à la casse.
Oui, au début, parce que quand est arrivée l'époque des seigneurs, on était rentré dans l'histoire des kilowatts. Les kilowatts, ça veut dire que si vous sortiez un bateau de 50 kilowatts, vous ne pouviez rentrer que 50 kilowatts. Pour construire nos seigneurs, il a fallu casser autant de kilowatts. Donc dans la famille Tarot, il y a eu 5 navires de cassés. Pour en avoir 3 bateaux, il a fallu en casser 5 plus modestes.
Les seigneurs, vous connaissez bien la problématique, car vous avez été amateur d'un de ces seigneurs.
Mon fils était armateur de la Gabrielle. Moi, mon neveu était propriétaire de l'Ophaline et moi, j'étais propriétaire du Massabielle. Et avec ma fille aînée, on gérait les trois bateaux au niveau financier. Mais nous gérions également la pêcherie des quatre seigneurs vendéens, car ma famille Pénisson s'était mise avec nous. Les pêches étaient mises en commun.
C'est pour ça qu'il y a une histoire de coopérative dans le livre. Non ?
Non, mais
expliquez-nous alors.
Non, mais les coopératives, les organisations de producteurs, on était en pleine bagarre. Autrefois, les marins pêcheurs, les armateurs, dans le premier livre, on le voit, ils montaient à Paris, au Comité national des pêches, et ils étaient écoutés. Et peu à peu, le nombre d'armateurs a diminué. Et ils ont été remplacés par des employés, des directeurs d'OP. Et là, vous avez vu, à plusieurs reprises, j'interviens parce que, bon, ben, un directeur d'OP, il défend sa place. Mais il ne défend pas son... Ou alors il va défendre les plus puissants. Et ensuite, c'est devenu, vu la diminution de marins et donc de représentants, c'est devenu une querelle d'égo, une querelle entre directeurs d'OP. Est-ce que vous vous rendez compte que le petit quota de thon rouge qu'on avait dans l'Atlantique aurait pu largement suffire aux seigneurs et même à d'autres chalutiers ? Mais Les directeurs d'OP s'étaient partagés. Dans la Manche, il y avait des OP qui n'ont jamais pêché un thon de leur vie, mais qui avaient réussi à obtenir des droits de pêche. Il y en avait...
Ça, vous le racontez dans le livre.
Partout. Et ça morcelait. C'était vraiment à Paris, divisé pour régner.
Vos seigneurs, que sont-ils devenus? Ils sont partis à la casse? Ils sont partis dans d'autres pays, notamment en Afrique?
Non. Moi, j'aurais bien aimé les vendre. Il y avait un gars de Saint-Pierre et Miquelon qui voulait en acheter un. Il y avait un gars de...
Pourquoi ça ne s'est pas fait?
De Madagascar. Parce que Paris avait très peur. Bruxelles, non, mais Paris avait très peur que ces bateaux soient vendus et revendus, car on ne pouvait plus construire de seigneurs. Donc, revendus et que reviennent par la bande en Méditerranée. Casser, c'était vraiment la façon de faire disparaître les bateaux, car l'Europe avait ordonné à la France de diminuer son kilowatt de seigneurs.
Beaucoup plus léger, l'histoire d'amour entre l'Espagnol et le pêcheur de l'Île-Dieu, le pêcheur de thon, a-t-elle existé?
Non.
Non,
non, mais
c'est vraiment la fiction dans ce livre.
C'est
dans
la fiction que j'ai ajoutée, mais il y a un peu de vrai quand même.
Expliquez-nous, ça m'a interpellé.
Maria Teresa, c'était une jolie Andalouse, mais quand nous allions en réunion à la pêche entre franco-espagnols, on finissait par se connaître. Moi, j'allais à Madrid 3 ou 4 fois par an. C'était la Galice, c'était la Bretagne. Il y avait beaucoup d'échanges. Et contrairement à la France, en Espagne, la secrétaire trilingue qui faisait les correspondants, c'était toujours la même. Ce n'était pas Maria Teresa comme dans le livre, c'était Maria José, Marie-Joseph. Elle parlait un français impeccable et contrairement à la France, qui embauchait des interprètes la veille pour le lendemain, qui ne connaissait rien des termes techniques ni des marins, les Espagnols avaient avec eux des gens compétents. Et cette Maria Teresa, cette Maria José, en la baptisant Maria Teresa, ça m'a rappelé un peu toutes ces bonnes réunions que nous avons eues ensemble.
En vous écoutant parler, il y avait tout de même une bonne entente entre les marins pêcheurs de l'Île-Dieu et les Espagnols. Même s'il y a eu des couacs et...
Bien sûr. J'ai beaucoup d'amis à Madrid et surtout en Galice. Les Galiciens avaient la même intention que les gars de l'Île-Dieu, avoir de la ligne et avoir un peu de filet. Dans leur pont couvert, ils avaient imaginé une trappe à l'arrière pour que ça soit discret. Ils n'en voulaient pas 10 km, mais ils voulaient un complément, comme nous. Mais les Galiciens et les gens de l'Île-Dieu, ce sont des gens du large, habitués à la grande sole, habitués au thon du large.
Est-ce que vous êtes toujours en contact avec des marins pêcheurs d'Espagne?
Non.
Non?
Non, mais j'ai été en contact il y a 2 ans avec un journaliste madrilène. Ils ont fêté les 20 ans de l'attaque de la Gabrielle, de la première. Et il a fait un très bel article que j'ai on peut chercher Bernard Grosard sur Internet, vous trouverez. No pardonan. Ils disent, 20 ans après, ils disent, ils ne nous pardonnent pas. Et c'est un peu vrai, parce que ça a été mesquin. Ils se sont servis des écologistes, ils se sont servis de la politique basque pour obtenir notre interdiction.
En vous écoutant parler, il y a toujours un point tout de même d'amertume.
Oui, je ne suis pas aigri. En général, quand une décision est prise, je l'accepte. Mais là, se battre comme ils l'ont fait pour exclure des concurrents, alors que les pêcheurs de thon franco et espagnol étaient toujours la main dans la main. Aujourd'hui, sur la pêche au thon, il n'y a plus que l'Espagne. Ils ont au moins réussi à nous mettre à la porte.
Il y a tout de même quelques pêcheurs de thon à l'Île-Dieu.
Oui, mais c'est modeste. L'Île-Dieu, n'oubliez pas qu'elle a reçu 3 gifles. Elle a été interdite de filet maillant dérivant. Elle a été interdite à la Seine. Et ensuite, elle a eu l'interdiction de pêche à la taupe, à la palangue. 3 interdictions pour le port, c'est une sacrée gifle. Aucun port de France n'a connu ça.
Une famille éclatée dans ce livre partout dans le monde, mais le point de retrouvaille, c'est l'Île-Dieu ou Nantes. Ce lien fait-il partie de votre vie personnelle?
Oui. Oui, moi je me souviens très bien. Un jour j'avais couché, étant jeune homme, très jeune, chez ma cousine de Nantes, sur la butte Sainte-Anne. J'ai retrouvé des souvenirs. Il y avait une cousine, la famille Bernard, qui faisait le cabotage, était au Vieux-Doulon. Mon Jean est également de Nantes. Vous voyez, on a beaucoup de liens. Nantes, c'est la métropole régionale. Donc Nantes, je suis un peu chez moi. Donc j'ai voulu associer Nantes, cette histoire maritime de cette grande ville de l'Ouest, à mon histoire.
Bernard Grosard, en vous écoutant parler, on a l'impression tout de même que ce livre, Adieu au large, c'est votre histoire personnelle.
Le premier, pas du tout. Dans le deuxième, Marc, c'est un peu moi-même. C'est vrai que je me suis servi de toutes ces rencontres, de toutes ces réunions, pour raconter, pour commenter, car un jour on m'a dit, il ne faut pas se taire, il faut dire ce qui s'est passé. Comment raconter tout ce qui s'est passé sans s'y imprégner? C'est pas possible. Donc c'est un peu, moi je suis un peu Marc, un peu on va dire.
À du au large, on l'a bien compris, est disponible. Les deux précédents livres sont-ils encore disponibles?
Oui, j'ai demandé à Maltais de les garder en vente. On en trouve à la librairie Lille-Dieu.
Moi, la maison de la place de Lille-Dieu.
J'en ai toujours un stock en permanence. Puisqu'il y a trois livres, on ne peut pas vendre le troisième sans avoir la possibilité de lire les deux autres.
Comment et avec qui vous êtes-vous documenté pour écrire ce livre et ces livres?
Alors bien sûr, dans mes archives, dans tous les recueils de réunions, de la pêche au thon, de Naprogère, du Comité national à Paris. Et puis je me sers d'Internet beaucoup, donc j'ai pris les archives nationales, régionales, islaises, ça je m'en suis servi. Et puis les articles de presse, ça, les articles de presse, tout ce qui concerne la pêche à Lille-Dieu, aujourd'hui encore, je les découpe, je les classe, année par année.
La pêche à Lille-Dieu, comment voyez-vous l'avenir?
C'est bien difficile. C'est bien difficile, parce que c'est un beau métier pêcheur, et il y a au moins un point positif aujourd'hui. Il y a moins de marins, et le marin, qu'est-ce qu'il fait? Une cueillette. Et cueillant moins, à une époque, après-guerre, il n'y avait plus de merlus. Il a fallu, et puis on s'est mis à le pêcher, ça avait beaucoup diminué. Aujourd'hui, le merlu, il y en a beaucoup. Il n'est que peu cueilli. À tel point que les OP, même celles de Vendéenne, ils font des filets. On en trouve même au flunch. Donc le prix du merlu a chuté parce qu'il y en a beaucoup trop aujourd'hui. Abondance de biens nuit au prix, c'est comme ça. Donc la ressource se reconstitue, ça devrait être, je pense, un encouragement pour les jeunes demain.
L'encouragement, c'est aussi le thon qui se pêche à Lille-Dieu, non?
Ben, le poisson en général. Le poisson, puisqu'il est moins pêché, les stocks sont en train de se reconstituer. N'écoutez pas les cassandres qui vous disent qu'il n'y a plus de poisson, qu'on a exagéré. C'est peut-être vrai dans certains endroits du monde, mais ce qui est vrai là n'est pas vrai à un autre endroit. L'Atlantique Nord-Ouest, le golfe de Gascogne, pour moi, il est sous-utilisé. Donc un jeune qui veut travailler aujourd'hui, les marins de Lille-Dieu qui naviguent, gagnent très bien leur vie. Il y a donc une source d'emploi et de savoir-vivre pour ceux qui ont la pêche.
Mais il manque des marins pêcheurs à Lille-Dieu.
Ben, il manque beaucoup de charcutiers, il manque beaucoup de bûchers. On entend dans la télé tous les jours, il manque des métiers manuels. J'espère que le retour vers l'apprentissage, qui est actuellement mis en œuvre dans les régions partout, va encourager des jeunes marins. Nous avons la chance, nous, à Lille-Dieu, d'avoir une école de pêche. Profitez-en, les jeunes.
Est-ce que vous suivez toujours, comme on est au mois de décembre, l'histoire des quotas décidés à Bruxelles?
Non. Non, non. Avant, j'y allais à toutes les réunions. Non, non, maintenant, non. J'ai tourné la page et il y a d'autres, rassurez-vous.
Vous tournez la page, mais vous écrivez.
Oui, mais le monde à hauteur du vide. Quand j'ai quitté, à la Chambre de commerce, on m'a dit, vous quittez tout. Ben, je dis oui, on me met à la porte de la pêche, on ne me donne plus le droit de pêcher. Donc, ok, j'ai compris, je pars. Ma façon de revenir par la fenêtre, c'est par l'écriture. Voilà, je reste en contact avec la pêche par mes écrits.
Bernard Croizard, est-ce que vous pensez déjà à un nouveau livre, un nouveau roman?
Oui, j'ai commencé cette fois-ci un roman qui ne sera pas basé du tout sur mes antériorités, sur ce que j'ai fait ou ce que j'ai pu voir.
Il va parler de quoi alors, ce livre?
Ce sera l'histoire d'un homme, d'un jeune marin qui est né en 1921.
Toujours histoire de pêche?
Non, c'est l'histoire d'un homme, et cette fois-ci je vais me servir comme beaucoup de romanciers de la vie en général. Il sera né en 1921. Il aura donc 20 ans en 1941. C'est un roman d'un jeune qui va traverser une période difficile, la guerre. C'est son histoire à lui.
Ce roman, il a déjà un nom?
Oui, mais je ne vous le donnerai pas aujourd'hui.
Il va sortir quand alors, ce nouveau roman?
L'an prochain peut-être, ou l'année suivante. L'an prochain, mais il me plaît bien.
Merci Bernard Croizard, on appelle Adieu au large, et paru aux éditions Amaltais. À très bientôt.
Au revoir, merci de m'avoir invité.